Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce dimanche aura lieu le premier tour des élections municipales 2020, un grand rendez-vous politique pour les Français, tant ces derniers continuent de plébisciter cette figure d'élu. Des maires que l'on sent pourtant à la peine, les enquêtes d'opinion relatant tour à tour leur ras-le-bol et la passion de ce service. Mais au fait, que font les maires? Quels sont leurs pouvoirs? D'où vient l'argent qu'ils gèrent? Quid de la fameuse intercommunalité? Leur coupe-t-elle les ailes pour dire les choses simplement? Petit tour d'horizon en toute modestie en cette veille d'élection. L'occasion peut-être également de prendre un peu plus le pouls de la France. Municipal, les maires ont-ils encore du pouvoir? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau ou par téléphone, Pascal Nicole, vous êtes directeur d'un cabinet de conseil auprès des élus et collectivités locales, appelé Gestion Locale, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage à paraître, Comprendre la vie municipale, paru aux éditions Victoire. Bonjour.
Bonjour.
Guy Clua. Oui, Guy Clua, vous êtes maire de Saint-Laurent, président de l'association des maires ruraux du Lot-et-Garonne, bonjour.
Bonjour.
René Savelli, vous êtes en plateau, vous êtes maire d'Ozas, président de l'association des maires ruraux de Haute-Garonne, bonjour.
Bonjour.
Parlez bien près du micro. Et Patrick de Pérignon, vous êtes maire de Préserville, c'est en Haute-Garonne, et membre du bureau de l'association des maires de France pour ce même département, bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer avec vous, Pascal Nicole, au regard de ce livre donc apparaître et qui est une réédition, comme vous l'avez précisé, pour quelques questions basiques sur le métier de maire. Alors certainement que les maires en plateau vont trépigner de prendre la parole, d'apporter des précisions. On va laisser, puisque c'est la coutume un peu, c'est le grand travers d'ailleurs des médias français, donc je continue de donner d'abord la parole à des experts. Vous allez nous introduire le métier de maire, et puis après, ça n'empêche pas que nos chers maires pourront apporter des précisions. On prendra le temps, dans la deuxième et la troisième partie, de parler de ce soi-disant ras-le-bol et peut-être un peu de nous dire quelles sont les joies et peines de votre métier. Pascal Nicole, tout simplement, si on commence par le début, il y a une spécificité française qu'il faut rappeler, c'est le nombre record de maires. J'ai cru comprendre que c'était presque, voire plus d'un tiers des maires en Europe.
Ah oui, c'est un très important. Le découpage communal est particulièrement exceptionnel en Europe, puisque la France compte maintenant plus de 35 000 communes, un peu moins qu'en 2014, puisqu'il y a eu des regroupements avec la création des communes nouvelles. Mais c'est quand même tout à fait important. Ça veut dire que les Français gardent un repère qui pour eux est essentiel, qui est la mairie, le petit drapeau bleu, blanc, rouge, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité au fronton de nos mairies. Et ça reste vraiment un élément de l'identité française. Et je crois que même pour les touristes, pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est un peu exotique d'ailleurs.
Voilà, on trouve dans les villages aussi, quand on habite dans les grandes villes, on connaît pas ça, mais honneur à notre élu, c'est un panneau donc avec le drapeau donc français qui est sur le devant des maisons des élus. Autre chose, enfin de multiples choses à rappeler, mais les communes françaises, les maires sont d'abord des maires de petites communes. C'est-à-dire moins de 500 habitants, moins de 1000 habitants. J'ai vu que ça fait à peu près 26 000, soit ça fait, si je compte un peu rapidement, ça fait quand même les deux tiers des municipalités. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ces réalités, ces échelles?
Oui, alors c'est un peu particulier ça aussi. On a plus de la moitié des Français qui vivent dans des métropoles, donc dans des très grandes villes, dans des très grands regroupements autour de grandes villes. On en a une vingtaine comme ça en France. Et puis le reste du territoire est couvert donc par des petites communes, parfois toutes petites communes. On a des communes qui font 15-20 habitants. Voilà, on imagine que ce sera peut-être même difficile dimanche de constituer une liste pour faire en sorte que le conseil municipal soit complet. Donc voilà, cette diversité-là, elle fait un peu la force de la ruralité aussi française, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans le territoire des gens qui se dévouent pour le bien commun. Et c'est, vous parliez de métier, c'est peut-être parfois un sacerdoce, parfois aussi une source de satisfaction, de progression, de promotion pour beaucoup de personnes qui jusqu'à présent étaient simples particuliers et qui de ce fait acquièrent un statut.
Alors ces maires, j'ai vu, en tout cas dans les enquêtes que j'ai trouvées, on peut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de retraités qui font ce service. Il y a aussi une part importante encore d'agriculteurs et d'exploitants, de cadres et professions supérieures. Tout ça en tout cas est à plus de 10%. Question aussi importante, combien gagne un maire ? La question est vaste parce que ça dépend du nombre de communes, enfin du nombre d'habitants dans la commune. Donc la fourchette est très large. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les grandes fourchettes, Pascal Nicole ?
Oui, alors c'est un barème effectivement qui suit les strates de la population. Hein. Donc dans les toutes petites communes, seul le maire est indemnisé la plupart du temps, et c'est vraiment quelques dizaines d'euros par mois, c'est vraiment très limité. Et puis dans les plus grosses, on arrive à avoir des maires qui peuvent être quasiment à plein temps, hein, avec des rémunérations qui, j'allais dire, ressemblent à celles de cadres, disons, de la fonction publique.
Alors, donc, quelques dizaines
ça
d'euros.
C'est pas un salaire. Hein,
quelques dizaines d'euros, donc c'est.
Des indemnités.
Pour moins de 500 habitants, c'est quand même 700 euros bruts par mois.
Voilà, exactement.
Voilà.
Quelques centaines d'euros.
Et le salaire, on va dire, si on prend les villes de plus de 100 000 habitants, c'est plus de 5 000 euros. Donc, de fait, c'est des réalités. Il y a d'autres fourchettes qu'on pourrait donner entre temps, mais grosso modo, ça dit un peu la progression. Autre question qu'on se pose, tout simplement, c'est quel est le pouvoir des maires ? J'ai cru comprendre qu'en fait le maire, il était, en fait, il avait quelque part deux grandes fonctions. C'est un agent de l'État, et puis c'est aussi l'exécutif de la commune. Derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut, enfin, certains sourient en disant le maire, il s'occupe des trottoirs. Expliquez-nous de quoi s'occupe exactement le maire, Pascal Nicole.
Alors, je ne sais pas si on pourra vraiment tout expliquer, même en une heure, ce sera difficile. Mais en tout cas, c'est évident que le maire à la représentation du pouvoir local, évidemment, puisque c'est la porte d'entrée pour beaucoup de Français, notamment dans le monde rural, effectivement, vers les services publics en général. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une représentation du maire qui est très forte en France, alors que effectivement son pouvoir se réduit hein, d'année en année. Effectivement, il faut savoir que d'ailleurs dimanche, on a deux élections en une. Hein. On a à la fois l'élection du maire, mais aussi l'élection des conseillers communautaire, c'est-à-dire de ceux qui vont représenter la commune au sein de l'intercommunalité, que ce soit une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une métropole, et on parlera de conseiller métropolitain. Donc voilà, il y a déjà ces deux casquettes. Le maire est souvent le représentant de sa commune, donc sur son territoire, mais aussi dans l'intercommunalité à laquelle la commune appartient. Et puis il y a un deuxième aspect, effectivement, c'est qu'il a, pour certaines tâches, des pouvoirs qui lui sont conférés en quelque sorte par l'État, et en particulier ce qu'on connaît le mieux, hein, c'est l'État civil. Hein. Le maire a le pouvoir de marier, par exemple, d'enregistrer les naissances et les décès, et à ce titre, il intervient en tant qu'officier d'État civil, et là, il représente l'État.
Donc voilà, et c'est l'officier d'État civil, officier aussi de police judiciaire. Peut-être qu'on prendra le temps avec vous de détailler un petit peu, quand on verra votre métier, on ira sur le terrain. Oui, Guy Clua, pardon, je sens que vous trépignez, vous voulez ajouter quelque chose ? Parlez bien devant votre téléphone, parce que là, on ne vous entend pas, là.
Oui, si je peux me permettre, par rapport à l'explication de Monsieur Nicole, c'est que le principal rôle du maire, qu'il soit rural, enfin, en général rural plutôt, c'est le service public de proximité qu'il assure envers les administrés, puisque finalement, c'est le dernier lien de service public que nous pouvons donner, nous, à nos administrés, dans toutes les tâches administratives qui composent et qui sont imposés aujourd'hui par l'État avec la dématérialisation. Et donc c'est quand même quelque chose de fort dans l'identité française vis-à-vis de cette proximité que nous assurons au jour le jour avec nos secrétaires de mairie. Voilà.
Pascal Nicole, est-ce que vous pouvez nous faire un point aussi sur le cumul des mandats ? Ça, c'est quelque chose qui est cher aux Français. Ça a changé depuis François Hollande. Si j'ai bien compris, tout simplement, pour faire les choses courtes, on ne peut plus être député et maire. Où est-ce qu'on en est un peu du cumul des mandats ?
Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut plus être parlementaire et maire. Hein. C'est vrai que c'est une particularité. Puisqu'on a vécu très longtemps sous le régime du cumul des mandats, c'est-à-dire qu'à une époque, on pouvait être maire, président de conseil général, sénateur, voilà, et cumuler toutes ces fonctions, parfois même ministre en même temps. Donc tout ça est terminé. On a, j'allais dire, arrêté le cumul, comme on dit, dans l'espace, c'est-à-dire des différents postes. On peut en gros pas cumuler plus de deux sièges en même temps. Mais en revanche, on n'a toujours pas réglé la question du cumul dans le temps. Et on a comme ça, et c'est toujours un peu l'anecdote des élections municipales, des élus qui sont présents, actifs dans leur commune depuis 40, 50 ans, 60 ans parfois. On aura peut-être bientôt un maire centenaire. Donc vous voyez, on a vraiment sur le cumul évolué beaucoup, effectivement, sur le cumul des postes. Mais en même temps, ça n'est pas aussi simple que ça, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le maire est aussi investi dans son intercommunalité en général. Et de ce fait, quand même, il y a toujours à minima en ce moment, c'est-à-dire un cumul qui, de fait, est nouveau. Depuis que l'intercommunalité recouvre totalement le territoire français, tous les maires de France sont maintenant à la fois maires et conseillers communautaires, ou en tout cas investis dans l'intercommunalité.
Pascal Nicole, dernière question donc à l'expert que vous êtes, sans vouloir du tout être péjoratif, avant de laisser la parole à faire une première pause et laisser la parole à nos acteurs de terrain. Quid des finances? Alors là, vous me direz, c'est un peu une question piège, parce que en fait, c'est une question à tiroir. D'où viennent les sous que gèrent les maires?
Oui, alors dans cette campagne électorale, on a évidemment un sujet qui est la question des impôts et du pouvoir d'achat des Français. Hein. C'est ce qui a agité beaucoup le mouvement des Gilets jaunes l'an dernier. Et donc, c'est la ressource principale dans la plupart des communes, pas dans toutes, puisque tout le monde ne paye pas d'impôts locaux. L'autre ressource, ce sont des ressources qui proviennent essentiellement des crédits d'État. Hein. On appelle l'aide financière de l'État l'aide principale, la dotation globale de fonctionnement. C'est ce qui va permettre à une commune de fonctionner finalement, même si elle a très très peu de ressources localement. Et puis ensuite, il y a bien entendu les autres aides, hein, départementales, régionales, européennes. Et j'allais dire, le rôle du maire, on disait tout à l'heure, il a peut-être un peu moins de pouvoir, c'est un facilitateur effectivement, hein, je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant, mais c'est aussi quelqu'un qui va aller chercher des aides, qui va aller chercher du soutien à l'extérieur, et donc son rôle là-dessus a également pas mal changé. Hein. On est plus du tout dans les maires qui restaient dans leur commune à essayer de quelque part de faire l'exploit d'entretenir les chemins et le cimetière. On est vraiment aussi dans des maires maintenant, dans des rôles de maires qui ont vraiment changé, qui sont des rôles plus dynamiques et qui vont aller chercher des financements pour entretenir le patrimoine, par exemple. On a bien sûr en ce moment même des recours à des financements participatifs, par exemple. Tout ça, ça fait partie, j'allais dire, du rôle nouveau du maire. D'aller chercher des financements, ce n'était pas autant le cas avant.
Voilà, alors merci de cette introduction. Je rappelle le titre de votre livre, Comprendre la vie municipale, donc réédition à paraître donc aux éditions Victoire. On va faire une première pause musicale et puis on va donner davantage la parole donc à nos maires de terrain avec de multiples questions. Et cette question de fond quand même que se posent un peu les Français, ont-ils encore du pouvoir alors que les Français plébiscitent cette figure? On a l'impression que là, il y a une contradiction ou une interrogation qui est dans l'esprit de beaucoup d'entre nous.
l'Église, Emmanuel Pella.
Municipal, les maires ont-ils encore du pouvoir? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. C'est avec nous au début d'émission Pascal Nicole, auteur d'un ouvrage Comprendre la vie municipale, paru aux éditions Victoire. Et sont avec nous toujours Guy Clua, qui est maire de Saint-Laurent, président de l'association des maires ruraux de Lot-et-Garonne. René Savelli, maire d'Ozas, président de cette même association pour la Haute-Garonne. Et Patrick de Pérignon, qui est maire de Préserville et membre de l'association et du bureau même de cette association, d'une autre association, l'Association des maires de France, tout court, pour la Haute-Garonne. Alors, j'aimerais commencer par... On va commencer par les questions les plus simples, et puis après, on va rentrer de plus en plus dans le détail, si ça vous va. Ma question simple, c'est qu'on a pu lire des choses, et c'est ce que je disais en début d'émission, des choses un peu contradictoires, qu'il y aurait un maire sur deux qui ne se représenterait pas. Donc, ça laissait entendre qu'il y avait quand même un souci, un ras-le-bol et une fatigue. Et puis, on peut lire d'autres articles, même sur le site de l'AMF, ai-je vu, en tout cas de la Gazette des communes, je crois que ça a quelques liens, les maires n'auraient plus le blues et que donc en cette veille d'élection, il n'y aurait plus qu'un quart des maires qui ne se représenteraient pas et qui jetteraient l'éponge. Alors, honneur à celui qui est loin de nous, Guy Clua, comment comprendre un peu ces informations contradictoires?
Écoutez, c'est fonction de l'humeur et du temps et des décisions qui sont souvent gouvernementales par rapport à... Le ras-le-bol, si je reviens un petit peu en arrière, c'est depuis 10 ans, il est surtout lié dans un premier temps au problème des normes qui sont imposées dans les petites communes, qui n'ont pas toujours les mêmes moyens que dans les métropoles. Donc ça, c'est vrai que c'était assez usant. Mais je crois que chacun s'est adapté par rapport à cela. Ce que je dis souvent dans nos communes, donc quand on n'a pas d'argent, on a toujours des bonnes volontés pour régler les problèmes. Donc c'est vrai que ces phénomènes de normes ont pas mal impacté les maires vieillissants, je dirais. Ensuite, l'intercommunalité a été un élément décisif par rapport à la décision, décision aussi de continuer ou de pas continuer, parce que la loi NOTRe a été quelque chose de néfaste pour la motivation des maires en général. Je ne sais pas ce qu'en penseront, mais...
On détaillera un peu, allez-y. En tout cas, votre sentiment, donc, c'est que ça dépend par quel bout on prend...
Oui, parce que l'intercommunalité, c'est quelque chose d'important, et donc, elle est parfaite contre la commune, puisque ce sont les maires qui construisent l'intercommunalité. Donc, il est important que les maires, qu'ils soient de grosses communes ou de petites communes, soient investis dans l'intercommunalité, qu'ils aient les mêmes pouvoirs au niveau de la décision de l'intercommunalité, puisque l'intercommunalité est un outil pour servir les communes.
Alors, Guy Clua, ouais, ce que je propose, attendez juste, on va donner la parole aux autres, et puis on va pas tout de suite parler que du sujet de l'intercommunalité. Si on reste sur un peu l'entrée générale, René Savelli, ras-le-bol ou pas ras-le-bol, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Alors, c'est vrai qu'il y avait des sondages qui disaient qu'il y avait 50% de maires qui se représentaient pas. Apparemment, il y en a beaucoup plus, mais c'est un chiffre qui est un petit peu faussé, parce qu'il y a énormément de maires qui se représentent parce qu'il n'y a personne pour leur succéder. Et moi, j'en connais énormément sur Haute-Garonne qui sont dans ce cas-là. Ils se représentent contraints et forcés parce qu'ils ont quand même la fibre patriotique et donc ils ne veulent pas laisser leur commune à l'abandon, ce qui risquerait de conduire à une fusion de communes et dans la disparition de la commune. Donc pour éviter ça, ils se représentent, mais contraints et forcés, ce qui veut dire qu'ils ne sont plus, ils n'ont plus tellement la foi qu'ils avaient au premier mandat ou au mandat précédent. Et donc, ça ne va pas, il n'y aura pas de mandat qui sera très porteur.
Oh, je finis le tour de table. Patrick de Pérignon, ras-le-bol ou pas ras-le-bol, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Est-ce que vous avez des choses à ajouter?
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le ras-le-bol et pas le ras-le-bol. La question, c'était finalement, il y a plus de maires qui se représentent que ce qui était prévu. On a souligné tout à l'heure que sur les 36 000 communes, il y avait 26 000 communes de moins de 1 000 habitants, donc des petits territoires. Et au-delà de la vision et de la gestion que les maires peuvent avoir, les maires sont des gens passionnés par leur territoire. Et effectivement, comme disait mon collègue Savelli, dans beaucoup de communes, il n'y a pas de candidat. Donc le maire qui s'est investi pendant un mandat, deux mandats, voire trois mandats, ne peut pas laisser tomber son territoire parce qu'il est attaché viscéralement.
Alors, on parlera des joies du métier de maire. Hein. C'est peut-être un tropisme français de voir le verre à moitié vide. Mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu plus dans le détail ce qui rend votre charge parfois un peu lourde. Le président donc, de l'Association des maires ruraux de France, dans une interview, donc Vanik Berberian, si je ne me trompe pas, disait que dans le fond, ce n'était pas tant la question de l'intercommunalité. Alors, je propose du coup qu'on la mette un tout petit peu de côté. Qui était posée, mais de multiples choses. Alors, à le lire hein, et à en lire d'autres, en vrac, c'est une forme d'individualisme qui se développerait. On s'en prend plein la figure, pour dire les choses un peu vertement. C'est l'abandon de la raréfaction des services publics. Le sentiment d'abandon des territoires, de fracture territoriale. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces deux grandes causes de ras-le-bol ou de difficulté, Patrick de Pérignon?
La difficulté la plus importante pour nous, maires, je pense que c'est le manque de cap, manque d'orientation qui nous manque depuis, je dirais, plusieurs gouvernements, plusieurs mandats de président de la République. Les caps changent à plusieurs moments, donc il est difficile sur le territoire de s'adapter en continuité, si
alors,
vous voulez.
C'est-à-dire, si vous deviez préciser, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendriez comme cap?
J'aimerais que les choses soient dites très clairement quant à l'organisation territoriale. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'organisation territoriale en France?
C'est-à-dire?
Des intercommunalités puissantes en faisant disparaître les communes, c'est ce qu'on nous propose finalement, ou alors maintenir les communes dans le cadre d'une intercommunalité. Et ensuite, quid du département et quid de la région, voire quid de l'État. À mon avis, c'est pas clair par rapport à ça.
On y reviendra sur les interventions du président de la République, par exemple, et du Premier ministre, en tout cas cet automne. René Savelli, sur ces deux grandes causes que cite donc le président de votre association, on va dire une forme d'individualisme, incivilité, et puis ce sentiment de raréfaction des services publics ou d'abandon des territoires. Est-ce que pour vous, c'est les deux grandes
points? Tout à fait, je pense que c'est très important. Bon, les incivilités, on l'a malheureusement subi lorsque un maire a été écrasé par une voiture alors qu'il essayait d'empêcher un dépôt sauvage. Donc,
c'était un signe, donc. Hein, c'est
tout à fait.
Jean-Mathieu Michel.
Tout à fait. Et ensuite, l'individualisme, c'est bon, malheureusement, c'est dans l'esprit du jour. Les gens sont de plus en plus utilisateurs, consommateurs.
Est-ce que vous avez un exemple
dans votre... Ils perdent l'esprit citoyen, si vous voulez. Et c'est ça qui est difficile pour les maires, et beaucoup ont dit que j'arrête parce que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Les gens n'ont plus cet esprit citoyen et ils sont, je vous dis, consommateurs. Et ça, c'est très difficile à vivre.
Il y a quand même des côtés positifs
Patrick
à être maire, je pense.
Ah oui, alors on y reviendra juste. Je donne la parole. J'essaie de faire circuler au début pour frustrer personne. Guy Clua, parlons un peu plus de l'intercommunalité. Donc, puisque c'est dans le fond ce qui revient un petit peu, en dehors donc de peut-être de ce sentiment d'individualisme. Est-ce qu'on peut reposer, vous pouvez réexpliquer un petit peu, tout simplement faire un peu de pédagogie sur l'intercommunalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand ça existe? Qu'on est passé, je crois qu'il y a à peu près 1200, on va dire, ensembles intercommunaux. Ça existe depuis quand et qu'est-ce que ça signifie, Guy Clua?
Oui, alors l'intercommunalité, elle a été fédérée par des élus il y a à peu près 12-14 ans. Voilà, parce que en clair, on avait dit on va se fédérer pour faire à plusieurs ce que l'on ne peut pas faire seul. Je vais vous un exemple simple, que ce soit les ordures ménagères, l'eau, les transports scolaires ou les syndicats de voirie, c'était au départ, les élus s'étaient fédérés autour de syndicats. Et donc, les utilisateurs avaient pensé qu'il valait mieux passer à la strate supérieure pour que on puisse faire des choses beaucoup plus importantes dans nos territoires. Donc, on est rentré dans un système d'intercommunalité avec le regroupement sur le volontariat de communes qui souhaitaient adhérer à cette intercommunalité pour un projet, je vais dire par exemple, on va prendre les ordures ménagères, voilà, donc ça veut dire que souvent, ou les ordures ménagères ou l'eau, dans un département, nous à Lot-et-Garonne, eh bien, l'eau s'est fédérée autour d'un gros syndicat qui a la compétence totale en termes de distribution d'eau. Quand je vous parlais tout à l'heure de la loi NOTRe, dernièrement, cette loi a imposé aux intercommunalités de prendre la compétence eau et assainissement. Alors que souvent, à l'échelle départementale, elle existe déjà par le biais d'une fédération de l'eau. Donc ça veut dire que ça a un petit peu bousculé les règles et les élus ne sont pas prêts à recevoir, à changer leur fonctionnement puisqu'ils avaient déjà basculé dans une fédération de l'eau avant de le basculer sur l'intercommunalité.
Alors juste, Guy Cluas, je récapitule hein, pour être sûr que j'ai bien compris. Donc ça a 10-20 ans, si j'ai bien compris. Donc il y a une loi...
Oui, ça a une quinzaine d'années.
Donc il y a une loi importante, c'est la loi NOTRe, peut-être que vous allez préciser. Et donc normalement c'était sur la base du volontariat, et donc il y a à peu près 1200, on va dire, quoi, regroupements d'intercommunalités pour à peu près 36 000 communes. C'est ça, grosso modo?
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça concerne toutes les compétences de la mairie ou est-ce que c'est juste pour certains sujets?
Non, c'est pour certains sujets. Les intercommunalités sont un petit peu ont des compétences obligatoires, comme par exemple la GEMAPI en termes de gestion des milieux aquatiques et des inondations, comme la voirie, comme l'urbanisme. Après, il peut y avoir la petite enfance, il peut y avoir la culture. Donc après, c'est à la carte. Mais je veux dire que les communes qui étaient dans une intercommunalité choisie travaillaient main dans la main de manière à réussir finalement à avoir un bon résultat dans l'intérêt de la commune et des administrés. La loi NOTRe a imposé des changements et a regroupé des communes dont on n'était plus dans des communes qui avaient choisi d'être dans des intercommunalités. On a fait des regroupements autour de territoires et on a imposé des intercos sans que les élus aient le choix. Donc alors, ça veut dire que ça a créé un malaise déjà dans un premier temps, vous comprenez?
Oui, alors Patrick de Pérignon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette fameuse loi NOTRe, elle date de quand quel a été le changement? On l'a entendu avec Victor, mais est-ce que vous pouvez le préciser?
Effectivement, le changement important, c'est qu'il y a eu obligation, aucune commune ne pouvait rester isolée.
Elle date de quand cette loi NOTRe?
Trois ans. Chaque commune devait rentrer dans une intercommunalité.
Donc le volontariat est fini, c'est ça?
Le volontariat est fini, totalement. Ce qu'on peut reprocher, ce que je reproche à la loi NOTRe, c'est qu'il n'y a pas eu une écoute finalement des élus de terrain que nous sommes, que la loi s'est imposée sans avoir une réflexion de fond en amont. On a eu l'occasion de le repréciser au niveau des parlementaires. Et aujourd'hui, on est contraint, toutes les communes, d'être dans des intercommunalités, non pas choisies, mais subies.
Alors,
la loi NOTRe même a précisé que finalement, le préfet pouvait passer outre, quel que soit l'avis des élus. Donc la loi NOTRe prévoyait de demander l'avis des élus avant le regroupement, quel que soit l'avis. Le préfet pouvait passer outre, ce qui est arrivé dans beaucoup de cas.
Alors je reviens sur une remarque que vous avez faite au début de l'émission.
Sur la passion.
Non, pas sur la passion. À propos de l'intercommunalité. On a l'impression, en fait, vu de loin, qu'il y a une hésitation, on va dire, en haut de l'État, hein, et je ne désigne pas que la présidence actuelle. C'est-à-dire que l'exception française serait, où on a donc près de, je crois, plus d'un tiers donc, des maires d'Europe qui sont en France. À la fois, on a l'impression que c'est une exception dont on est fier. Que c'est comme ça aussi que la France tient, bref, que c'est une bonne chose, et qu'en même temps, il faudrait, pour des motifs d'économie, de rationalisation, de modernité, arriver un jour à faire fondre le gâteau. Alors, est-ce que le sentiment est juste?
Effectivement, on nous dit très, très souvent que le maire, c'est la proximité, que nous avons besoin de 36 000 communes, que l'exception communal finalement de la France est un atout de la proximité, du lien social, des relations humaines. Et puis en même temps, il y a au niveau de l'État la volonté de rationaliser sous prétexte d'économiser. Ça, on peut l'entendre.
Est-ce que vous coûtez si cher que ça?
On coûte pas si cher que ça, effectivement, puisque à travers les 36 000 communes, il y a énormément de bénévolats. On a vu tout à l'heure que les maires avaient des indemnités qui étaient relativement faibles. Donc on coûte pas très cher vis-à-vis d'autres structures. Et sous prétexte qu'on coûte cher, c'est l'État qui le dit, on va faire rationaliser avec des intercommunalités. Et on s'aperçoit dans ces intercommunalités que finalement la mutualisation coûte beaucoup plus cher que ce qui était annoncé.
René Savelli, quel est votre sentiment? Est-ce qu'il y a de l'hésitation quelque part en haut de l'État, ou est-ce que même on peut dire un peu d'hypocrisie? Le mot est peut-être fort, mais...
Oui, non, je voudrais revenir un petit peu sur les communautés de communes. En effet, on a fusionné ces communautés de communes, et de façon autoritaire, comme disait de Pérignon, sans tenir compte des bassins de vie. C'est-à-dire que avant, on avait des communautés de communes qu'on avait choisies, on s'était engagé, on avait créé ces communautés de communes avec des compétences qu'on avait déléguées volontairement, et c'était centré sur les bassins de vie. Actuellement, vous avez sur Haute-Garonne une communauté de communes qui regroupe 104 communes, qui a plus de 100 ou 120 km de long, qui va pour les gens de Haute-Garonne, de Montrégeau jusqu'à l'île d'Andodon. Quel est le bassin de vie de cette communauté?
Donc c'est des découpages administratifs, ça voulait
pas
dire.
Oui. Il n'existe pas. On a raisonné uniquement en termes de population et non pas en termes de territoire. Et c'est ça le drame de toutes ces lois qui ont été faites, c'est que c'est des énarqueries. On ne parle que en termes de population, et donc il faut arriver à une strate supérieure. Et c'est ça qui nous tue.
Alors, Patrick Deperignon, vous voulez intervenir?
Oui, je crois que l'hypocrisie, elle est à un niveau, mais pas à deux. Il y a une volonté de différents gouvernements de faire disparaître les communes, mais c'est pas dit comme ça. Depuis peu, il me semble qu'il y a un rebond positif, parce que vu que les intercommunalités ne marchent pas toujours, du fait des bassins de vie qui ne sont pas cohérents, comme disait mon collègue Savelli, donc il me semble que le législateur nous donne la possibilité, c'est pas qu'il me semble, c'est une réalité, finalement, de défusionner suivant certains critères.
C'est-à-dire qu'il y a de fait une souplesse qui a été introduite à cette ou à une autre ?
Il y a une souplesse. Aujourd'hui, il y a la possibilité de défusionner avec un certain nombre de critères. Ce qui prouve bien que le législateur et le gouvernement ont compris...
Défusionner sur tous les sujets ou sur toutes les compétences qui aujourd'hui...
Défusionner sur les intercommunalités qui ont été subies.
D'accord. Sur certains sujets ou sur certaines prérogatives ou sur...
Défusionner totalement. D'accord. C'est-à-dire, on a regroupé trois anciens cantons et puis il y en a un qui revient séparément.
Guy Cluart, vous vouliez peut-être intervenir. Que dire de ce mot hypocrisie qui peut paraître un peu fort?
Oui, alors bon... De toute façon, c'est la responsabilité de chacun, donc ça veut dire que... Moi, je dis que l'hypocrisie, elle dépend de nous. C'est-à-dire que j'ai des exemples forts, moi, dans mon intercommunalité et dans les intercommunalités que j'ai pu fréquenter, puisque moi, justement, j'ai défusionné de mon intercommunalité imposée. Et donc, je peux vous dire, chers collègues, que c'est quand même pas simple de défusionner.
Bien voilà. Sûr,
tout donc, à fait d'accord.
C'est-à-dire,
même s'il y a des sous-classes,
est-ce que vous pouvez prendre, une illustration? Pourquoi vous dites que c'est pas simple?
Parce que moi, j'ai changé d'intercommunalité en 2018 et je suis toujours en attente du règlement financier lié à ce changement d'intercommunalité. Voilà. Donc, je suis au tribunal administratif par rapport à ce problème de défusion, puisque le législateur n'a pas tout bordé en termes de partage de compétences par rapport à la commune et à l'interco. Voilà. Donc ça veut dire ça peut le faire, mais voilà, et je pense qu'il faut entre 5 et 10 ans pour pouvoir rentrer dans les clous pour le bassin de vie et la nouvelle intercommunalité. Mais bon, on va pas rentrer trop dans le détail. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que les élus communaux que nous sommes sont les représentants au niveau de l'interco. Donc c'est à nous, au niveau des élus communaux, à demander à l'interco de fonctionner comme nous le souhaitons. Il n'est pas normal que les élus communaux aient un discours en conseil municipal et un discours différent en intercommunalité. Voilà. Voilà l'hypocrisie que je peux retrouver dans certains cas.
Allez, on va faire une deuxième pause. En tout cas, ce qu'on entend derrière, c'est qu'il y a quelque part deux élections à l'intérieur d'une, alors que ce n'est présenté que comme une élection, ce qui prouve bien que, on va dire, ce maillage à l'intérieur du maillage n'est pas sans poser de difficultés, ou en tout cas, difficultés ou moins de transparence à l'égard des Français. On va faire une deuxième pause, et puis on va parler un petit peu de la crise des Gilets jaunes. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez d'Emmanuel Macron, ou ce qu'il a écrit sur vos ronds-points, mais je voulais revenir un petit peu sur les déclarations qui ont été faites cet automne, tant par le Premier ministre et son plan ruralité l'intervention d'Emmanuel Macron devant les maires de France. Prendre un petit peu plus le pouls de vos territoires en cette veille d'élection.
Thank you. Présence à Cahors, 92.5.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Municipal, les maires ont-ils encore du pouvoir? C'est pour un thème, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Était avec nous au début de l'émission Pascal Nicole, auteur d'un ouvrage Comprendre la vie municipale. Et j'ai fait une erreur sur la maison d'édition, Mea culpa, maxima culpa. C'est aux éditions Éditience. Comprendre la vie municipale aux éditions Éditience. Je redirai ça à la fin de l'émission. Sont avec nous Guy Clua, qui est maire de Saint-Laurent, dont en le Lot-et-Garonne, René Savelli, maire d'Ozas en Haute-Garonne, et Patrick de Pérignon, maire de Préserville. Et ils sont pour les deux premiers membres de l'Association des maires ruraux de France et Patrick Pérignon de l'Association des maires de France. Avant de prendre le pouls un peu de vos territoires, de parler un peu de la crise post-gilet jaune, je voulais revenir sur un aspect, justement, qu'a introduit Pascal Nicole au début de l'émission. On a entendu que donc les maires, pour faire simple, vous êtes donc les agents de l'État, c'est-à-dire les officiers d'État civil, officiers de police judiciaire, vous organisez les élections, etc. Vous êtes aussi l'exécutif donc, de la commune, vous préparez les décisions du conseil municipal, vous êtes le chef de l'administration communale, etc. Mais on a l'impression que voilà, si vous avez certains domaines de compétences, je pense par exemple aux écoles primaires, vous avez un droit de regard en fait, un peu sur tout. Expliquez-nous davantage ça, Patrick de Pérignon. Est-ce qu'il y a un deuxième métier à côté des prérogatives quelque part? Quels sont les vôtres?
Je dirais qu'il y a un deuxième métier, nous n'avons pas toutes les compétences. Vous soulignez le collège, le département, le lycée, c'est la région. Mais je dirais que notre premier métier, finalement, qui est lié à la proximité, ce sont les relations humaines. On appelle ça le lien social, je parle de relations humaines. Puis quelle que soit la difficulté ou le questionnement d'un habitant ou d'une habitante, mais ils se tournent vers le maire. Pourquoi vers le maire? Parce qu'il y a un visage, parce qu'ils le connaissent, ou ils la connaissent, parce que la proximité immédiate est quotidienne.
Mais alors, en dehors de ça, donc on entend que les gens se tournent vers vous, on va dire, pour tous les sujets, quitte parfois à ce que vous renvoyez vers d'autres personnes compétentes.
Tout à fait.
Mais je prends un exemple, par exemple, les aides sociales. Les aides sociales, c'est l'affaire des départements. Et pourtant, si j'ai bien compris, vous, dans votre commune, il vous est demandé quelque part de veiller au grain et de faire en sorte que le droit de vos administrés soit honoré, et entre autres sur le sujet des aides sociales, non, René Savelli?
Oui, bien sûr, on a aussi un rôle social dans notre commune. Nous avons toutes les compétences, puisque nous avons la compétence générale, ce qui veut dire que nos concitoyens s'adressent pour n'importe quoi au maire. Ils connaissent le maire, comme disait de Pérignon, ils ne connaissent pas, par exemple, le président de la communauté de communes. C'est complètement éloigné. Le conseiller général, départemental maintenant, qui était de proximité maintenant avec le regroupement des cantons, ils ne le voient plus non plus. Donc ils n'ont plus que le maire comme ressource. Et on est sollicité 365 jours par an, 24 heures sur 24. Les gens connaissent dans notre petite commune, ils nous connaissent.
Ils connaissent votre numéro de portable, j'imagine, oui.
Ah, tout à fait. Ils ont notre numéro de portable et ils nous appellent pour n'importe quoi, entre guillemets. On est le dernier maillon, on est le dernier lien. C'est pour ça que lorsqu'on parlait tout à l'heure de disparition ou du nombre de communes, il ne faut surtout pas que les communes disparaissent. Ou fusionne, parce que si on nous remplace par un administratif, ben il sera là un jour par semaine et puis c'est tout. Donc les gens seront complètement abandonnés dans le rural.
Guy Clua, sans faire trop de politique et nous dire ce que vous pensez à titre personnel d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement, je voudrais revenir donc sur certains événements de l'automne dernier qui ont peut-être échappé aux auditeurs. Le Premier ministre donc a annoncé un plan ruralité. Emmanuel Macron est intervenu devant les maires de France. Le sentiment général, c'est que ils auraient pris acte de la nécessité donc de continuer dans la décentralisation, d'avoir plus de souplesse donc et d'honorer davantage le rôle des maires. Il y a eu par exemple une annonce, c'est ces fameuses maisons France Service qui émailleraient demain le territoire comme des regroupements, des espèces de médecins généralistes de l'administration publique. Est-ce que ça vous fait sourire, Guy Clua, ou est-ce que vous vous dites qu'il y a quelque chose qui a été entendu?
Non, voilà, moi, il n'y a rien qui me fait sourire, je vais vous dire pourquoi. Parce que
La révolte des Gilets jaunes, elle était justifiée par le fait que bon, le pouvoir d'achat était complètement mis à mal. Alors ça a commencé avec la limitation de 90 à 80, l'augmentation des prix du carburant, et puis cette révolte citoyenne qui a vu le jour en septembre 2019. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une écoute différente de ce gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à partir de ces éléments-là, nous avons travaillé avec l'Association des maires de France, mais c'est à l'initiative de l'Association des maires ruraux. Nous avons mis en place des cahiers de doléances dans nos communes qui ont permis de faire remonter au président de la République dès le mois de janvier 2019. Finalement, le mal-être qui remontait de la base avant le grand débat national. Ce qui a permis derrière au président de la République de mobiliser son gouvernement, et nous avons travaillé avec les différentes associations sur un agenda rural auprès du cabinet de Jacqueline Gourault, ce qui a permis pendant 6 mois et jusqu'en juillet 2019 de proposer 200 propositions à destination du monde rural.
Est-ce que vous pouvez prendre une ou deux illustrations, sans rentrer trop dans le détail, de ce que vous avez, entre guillemets, adressé comme requête auprès du gouvernement ?
Alors oui, simplement je voulais vous dire que c'était une autre approche de la politique française, c'est-à-dire qu'il y a eu une écoute attentive, c'est-à-dire que c'est la base qui a fait remonter vers le pouvoir central. Avant, en règle générale, c'est l'inverse qui se passe. C'est le pouvoir central qui décide pour la base. Donc là, on est revenu dans une échelle d'une nouvelle approche. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, dans les zones rurales, si vous perdez votre bistrot, eh bien, ça veut dire que si vous voulez rouvrir votre bistrot, ben, si vous n'avez pas une licence 4 de disponible, vous ne pouvez pas vendre de l'alcool. Voilà. Donc là, dans les 200 mesures qui ont été acceptées par ce gouvernement, eh bien, aujourd'hui, si quelqu'un veut ouvrir un bistrot dans un village, il aura automatiquement une licence 4 dédiée pour la réouverture. Voilà, ça c'est un exemple. Si on parle santé, par exemple, les stages obligatoires pour les internes en médecine n'intervenaient en zone rurale qu'à partir de la 5e ou 6e année. Là, dans les propositions et dans l'acceptation de ce gouvernement, les médecins internes peuvent venir en 3e année investir dans un cabinet médical ou dans une maison de santé. Voilà. Et donc là, il y a 200 propositions qui ont été acceptées. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous savez très bien...
Rapidement, allez-y, finissez juste pour laisser la parole un peu aux autres. Allez-y.
Non, mais simplement, voilà, pour vous dire que le gouvernement a pris des dispositions. Aujourd'hui, ces dispositions sont dans les ministères. Il faut que ça redescende dans les préfectures. Et donc, on est en train d'avoir le fruit du travail que nous avons co-construit, l'AMRF, l'AMF... Et l'Association des petites villes de France autour de cet agenda rural.
Voilà, alors, donc Guy Cluart faisait écho donc, de ces cahiers de doléances qui avaient été donc, installés dans les mairies, de cet appel au peuple français qui avait été adressé avant le débat national, donc, entre autres par l'AMRF, Association des maires ruraux de France, avec en retour, alors donc il y a ce fameux plan ruralité qui a été proposé par Édouard Philippe avec 173 mesures. Donc à entendre Guy Cluart, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises. On ne pourra pas toutes les citer, hein, mais on irait vers un meilleur maillage des services publics, amélioration des connexions des territoires, un fonds de solidarité pour les communes. Donc il y a cette question des bistrots assez symbolique. Est-ce que il y a des choses que vous avez retenues, vous, Patrick de Pérignon, qui sont motifs de satisfaction ?
Je voudrais quand même revenir en préalable à la notion de maison France Service, ou la réalité. Je pense que c'est une fausse bonne idée.
Alors rappelez ce que c'est, parce que c'est vrai on a l'impression que ça a été une des grandes réponses à la crise des Gilets jaunes, ou une des grandes annonces des suites du débat national.
C'est une grande réponse, mais c'est mailler le territoire avec une maison, enfin un lieu, où on ait tous les services de proximité pour la population. C'est une fausse bonne idée. Quand on met des maisons France Service en place, ça veut dire que derrière, on veut supprimer les communes à terme. Parce que pour moi, la maison France Service, ça doit être la mairie France Service. On a vu tout à l'heure que la mairie était la proximité, le maire était la proximité. Donc il était à mon sens inutile de mettre en place des maisons France Service, dans la mesure où on a 36 000 communes qui pourraient être les mairies France Service.
Mais en même temps, vous renvoyez vers d'autres personnes compétentes. Les gens se tournent naturellement vers vous, mais vous n'avez pas toutes les prérogatives et toutes les réponses.
Bien sûr, mais en mettant ces maisons France Service en place, on détériore finalement la notion de commune à laquelle les Français sont très attachés.
René Savelli, vous faites partie donc, de l'Association des maires ruraux de France. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a un peu entendu ? Est-ce qu'il y a des mesures comme ça, autres que celles que Guy Cleux a citées, qui ont été retenues dans ce fameux plan ruralité dont vous félicitez ?
Oui, on a été entendu, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'on a été compris ? C'est autre chose. Donc, il y a en effet des éléments qui ont été retenus.
Est-ce que vous en avez certains qui précis qui vous viennent en tête ?
Bon, les a cités, les principaux. Mais par rapport aux blouses des maires et pour combattre le fait que soi-disant 50% des maires n'allaient pas se représenter, il y a eu une annonce, par exemple. On a dit tout à l'heure qu'un maire rural touchait 500 et quelques euros net par mois. L'annonce du gouvernement, ça a été de dire on va doubler votre indemnité pour encourager les maires ou des candidats à se positionner. Sauf que lorsqu'on demande au gouvernement avec quoi on paye cette augmentation, ce doublement de l'indemnité, il nous dit c'est votre budget communal, vous vous débrouillez pour trouver l'argent. Alors d'un côté, il nous baisse les dotations, et de l'autre côté, il nous accorde gracieusement le droit de nous augmenter. Sauf que dans une petite commune, on ne peut pas.
Actuellement, il y a des... Parce que vous n'avez pas les moyens, parce que les administrés trouveraient ça comme...
On n'a pas les moyens. Et il y a pas mal de communes, de toutes petites communes, dans lesquelles le maire ne perçoit même pas la totalité. Il ne se vote même pas la totalité de la subvention, parce qu'il ne peut pas arriver à boucler le budget.
Donc 500 euros net, juste ça vous prend combien de temps d'être maire ? C'est un tiers-temps ou c'est...
Non, c'est un temps complet. Non,
Vous êtes à la retraite.
Je rigole,
alors.
Non, mais c'est ça. C'est qu'on est tout le temps sur le qui-vive. Là, tout à l'heure, je recevais encore un message, quelqu'un qui... Bon, on est sans arrêt sollicité.
Allez, on va finir par une note positive. Patrick de Pérignon, vous parliez de passion. Pourquoi est-ce que vous vous représentez, puisque c'est le cas ? Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs en cette veille d'élection municipale de premier tour ?
Au-delà de la gestion et de la vision qu'un maire doit avoir, bien entendu, la principale question, c'est la passion. La passion qui passe par l'écoute des habitants. On dit 24 heures sur 24, je suis maire 24 heures sur 24. Donc cette passion et cette écoute qui est toujours valorisante quelque part pour un maire, puisqu'on voit en proximité les relations qu'on peut avoir et finalement la satisfaction de voir des gens heureux sur notre commune.
Guy Cleux, le mot de la fin sur cette passion du métier de maire ou de vocation, je ne sais pas.
Oui, eh bien, écoutez, je rejoins ce que dit mon collègue de Pérignon. Donc c'est vrai que cette passion et ce service que nous apportons à la population est quelque chose d'important et alors il est complémentaire avec les associations qui englobent les petites communes, puisque comme je vous disais en préambule, quand on n'a pas trop de moyens, ben il faut utiliser le système associatif, et nombreux sont nos clubs sportifs et nos clubs culturels qui œuvrent pour le bien commun de la population. Et ça, c'est une richesse. Ça fait partie de notre histoire de France. Voilà. Et donc, je crois que ça, il faut arriver à le conserver et même à le développer, puisque ça rentrera dans un lien social de plus en plus fort dont nous avons besoin.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin pour va dire ces questions simples sur les élections municipales et sur votre métier, votre quotidien, sur les prérogatives et vos interrogations. Je rappelle le titre du livre « Comprendre », livre donc entre autres de Pascal Nicole, interrogé au début de cette émission « Comprendre la vie municipale ». Et donc c'est aux éditions Edisens. À nouveau, je m'en excuse auprès de l'éditeur et du coup, charge à moi de réinviter des auteurs de cette maison d'édition. Je prendrai ça sera ma pénitence, comme on dit. Edisens, comprendre la vie municipale. Merci beaucoup et bon vote à tous les électeurs dimanche prochain. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.